Bonjour à toutes, bonjour à tous et comme d'habitude, soyez le ou la bienvenue dans cet audio, un audio consacré aujourd'hui à polir le joyau. Qu'est-ce que cela signifie? Pour commencer, petit détour sur les blessures de trahison et d'abandon, comment les différencier pour avoir d'autant plus d'informations sur ce qu'est vraiment la blessure de trahison. Donc, comme je le disais, trahison et abandon sont très proches et il est parfois difficile de savoir les différencier parce que toutes les deux sont activées très jeunes. Donc l'abandon entre 3 et 5 ans, la trahison entre 4 et 6, donc on est vraiment proche. Et par le parent, ou en tout cas celui qui avait ce rôle à ce moment-là de notre existence, donc par le parent de sexe opposé. L'abandon est une des blessures les plus dévastatrices avec le rejet. Pourquoi? Parce qu'elle est vécue de manière passive à l'intérieur de soi. On ressent une tristesse intense sans connaître vraiment la raison et elle déclenche des réactions passives. Alors des réactions passives comme le fait de beaucoup manger, mais attention de ne pas forcément grossir parce que la personne, elle va vivre une sensation de manque et aura toujours l'impression de manquer, d'avoir un vide. Donc il ne va pas y avoir un impact sur le corps qui va le faire grossir, mais plutôt garder cette impression de manque en regardant le corps également. La réaction à la blessure de trahison est différente parce qu'elle est plus active. Il va y avoir plutôt un ressenti de colère, une colère exprimée en parole ou une colère gardée en pensée, peu importe, mais quelque chose, oui, de cette émotion-là plus active. Là aussi, la personne ne comprend pas la raison de pourquoi elle a si peu d'attention alors qu'elle fait tout pour être aimée, on l'a vu, hein. Et en fait, ce qui va animer cette blessure-là, c'est de voir un décalage entre ce que le parent de sexe opposé va dire et faire. C'est une colère née de ce décalage-là qui va être impossible à ignorer, qui va gronder et qui va être dirigée vers la personne de sexe opposé. Donc, dès l'enfance, lors de cette blessure éveillée de façon originelle, ou alors plus tard. Donc la trahison, on va surtout le ressentir face à des personnes de sexe opposé, mais pas toujours. Plus tard en tant qu'adulte, donc, comme je vous le disais, cela va affecter nos relations amoureuses, puisque voilà, d'ordinaire, on se met avec des personnes de sexe opposé, bien entendu, ce n'est pas gravé dans la pierre, on voit qu'il est possible de tomber amoureux et de dépasser ces questions de genre. En tout cas, la personne qui est touchée par cette blessure-là va faire peu confiance en son ou sa partenaire et elle pourra tour à tour passer pour quelqu'un vraiment dément et d'un coup, en un claquement de doigts, en quelqu'un de très méchant et tout cela en se croyant parfaitement indépendant. Indépendant de l'autre, indépendant dans la vie en général, alors que non, on voit que c'est les réactions du partenaire qui va créer cette montée de colère. Donc quelqu'un de colérique qui se dit indépendant est une bonne indication qu'il souffre de la blessure de trahison. On le voit aussi par le corps, on en a déjà parlé. Alors pourquoi? Est-ce que c'est là que va se jouer la blessure de trahison au niveau du corps, donc pour les hommes, les épaules et pour les femmes, les hanches? Eh bien, ce sont les zones de protection. C'est là où on a l'impression, en fait, d'être protégé. Donc, des parties qui renforcent l'impression, eh bien, de savoir prendre soin de soi, soin des autres, d'être fort. Donc, pour les femmes, c'est plutôt le soin de l'autre. Au niveau des enfants, donc tout ce qui concerne l'enfantement, donc les hanches, et pour les hommes, c'est l'efficacité, et ça va plutôt se développer au niveau des épaules très solides. En général, on commence d'abord par ressentir la peur d'être abandonné dans l'enfance, puis la peur d'être trahi va venir plus tard. La trahison nous fait accuser la personne de sexe opposé. Donc c'est voilà une réaction active qui va vers l'autre, alors que l'abandon va plutôt nous faire nous juger nous, pleurer sur notre sort, trouver des excuses au comportement des autres qui peuvent même être dans certains cas des comportements de violence, alors que la trahison ce sera plutôt montrer du doigt, justement condamner ces violences, les juger et exprimer une colère. Pour guérir la trahison, il va être nécessaire de ne plus avoir d'attente, de ne plus tout faire pour chercher à plaire et finalement être vraiment indépendant et pas être dépendant de l'amour que l'on va recevoir. Il va nous falloir apprendre à reconnaître les autres comme ils sont et que nous, eh bien, nous sommes responsables des attentes que nous avons envers ces autres personnes-là, des attentes d'amour, des attentes de protection que nous avons vis-à-vis d'eux et dont eux-mêmes ne peuvent peut-être pas du tout avoir conscience. Au quotidien, nous agissons en espérant que nos attentes seront comblées par les autres, nos attentes d'amour. Or, bien évidemment, ce ne sera jamais le cas, déjà parce que les personnes ne le savent pas, elles n'en ont pas pris conscience, mais aussi parce que la vie ne le permettra pas, parce que sinon, nous n'apprenons pas, nous n'avançons pas. Et au contraire, elle va plutôt faire en sorte qu'on rencontre une personne qui va appuyer sur la blessure, en tout cas, cette personne-là va nous plaire aussi pour ça, et on va s'attacher justement à avoir des partenaires dans notre relation amoureuse qui vont justement titiller cette blessure-là et qui vont jamais nous vouloir combler nos attentes, tout simplement parce que ce seront des personnes qui resteront aveugles à ce genre de choses, ce sont des personnes qui vont également souffrir de la blessure de trahison et qui va nous accuser de la même chose. En tout cas, voilà, toutes ces attentes que nous avons là pour guérir cette blessure, ou en tout cas que l'ego souhaite parce que nous avons peur de la revivre, la vie ne va jamais le satisfaire, au contraire. Donc, guérir cette blessure-là, ça va commencer par ne plus accuser les autres, parce qu'on a vu, c'est une blessure active qui va dénoncer, qui va faire culpabiliser, qui va tenter de manipuler. Donc, ne plus accuser les autres et avoir conscience de nos propres attentes. C'est aussi être tous les jours, au quotidien, de plus en plus vrai. Et par là, je l'entends par être aligné, aligné entre nos pensées, nos sensations, nos paroles et nos actes. Et ce, malgré le risque de déplaire, donc oser déplaire. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, si les autres ne sont pas responsables de nos attentes, nous c'est pareil. Nous ne sommes pas responsables de ce que l'autre va ressentir lorsque l'on va agir en alignement avec ce que nous sommes. Nous ne sommes pas responsables des émotions qui surgissent en l'autre. C'est plutôt là aussi le fait de ses propres attentes qu'il va réagir ainsi, de son éducation, de son enfance, de sa personnalité. Presque tout sauf nous en fait, on est les déclencheurs mais on n'est pas la raison. Donc nous ne sommes pas responsables d'animer chez l'autre telle ou telle émotion, alors nous n'avons pas à tout faire pour plaire. Attention, petit moment de précaution également, être aligné ça signifie pas pour autant tout dire ce qui nous passe par l'esprit et être méchant. Cela ne signifie pas non plus que ce que l'on pense ou ce que l'on croit est le juste, est le plus juste en tout cas, personne ne détient la vérité suprême. Donc même si on est aligné avec ce que l'on est, nous ne sommes peut-être pas la vérité ultime, en tout cas on est ce que l'on est, c'est déjà pas mal. Mais voilà, nous n'avons pas à juger les autres parce qu'ils sont différents de ce que l'on est. Nous-mêmes, la vérité est multiple, insaisissable, et elle est justement dans cette pluralité d'être. On le voit dans la nature, on n'a pas une plante, on a une multiplicité de plantes différentes, de couleurs différentes, de moyens de se reproduire de façon différente. Et la vérité, c'est que nous acceptons, nous devons accepter les autres vérités. Donc, être aligné, oui, mais en profiter pour faire du mal et, et dire que c'est nous qui détenons la vérité, non, non, non. Alors, maintenant, passons au cœur de cet audio qui est le fait de polir notre joyau. On a déjà un petit peu commencé, mais partout où on regarde, quand on parle de blessure de l'âme, eh bien, on nous dit que la blessure sera totalement cicatrisée quand nous serons capables de ne plus faire monter d'émotions en nous dévastatrices et aussi, en tout cas par rapport à la blessure de trahison, de ne plus faire d'accusations. Voilà le but, voilà peut-être même une de nos missions de vie. Et par là, par le terme de mission de vie, je voudrais vraiment insister sur cette croyance que j'ai personnellement, donc là aussi je ne détiens pas la vérité, c'est que je pense que nombre d'entre nous sommes venus justement ici pour polir le joyau, c'est-à-dire nettoyer ces problèmes-là de vulnérabilité et ou d'avoir donné ailleurs notre pouvoir personnel. Parce que c'est ce pouvoir personnel qui s'assied sur le plexus solaire. C'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'entrée du labyrinthe se fait par le troisième niveau, au niveau du troisième chakra. C'est parce qu'il est vraiment essentiel pour nous de clarifier cette blessure-là en premier, parce que prendre confiance en soi, en la sagesse de notre corps et en notre capacité de nous tenir debout pour nos valeurs, pour nos croyances, pour ce qui est réellement important pour nous, c'est un petit peu la base, la fondation, c'est notre assise, notre trône. Alors bien sûr, lorsque nous étions enfants, nous ne pouvions rien faire pour gérer les émotions soulevées, pour comprendre qu'en fait nous étions responsables de nos attentes. C'est pas possible à cet âge-là. Mais nous voici maintenant, désormais, prêts à nous reparenter, c'est-à-dire à être pour nous les parents que nous aurions tant aimé avoir. Donc, dans ma vision personnelle des choses, les blessures sont des dégâts commis à ces fondations de vie-là. Et ensuite, peu importe ce que nous construisons, tout aura du mal à tenir sur ces fondations qu'il nous faut réparer. Tout sera qu'un château de cartes, au moindre souffle, ou à la moindre blessure, tout s'effondre. À moins de nous reparenter, à moins de polir notre joyau. Mais quel est ce joyau au juste ? Alors bien entendu, c'est un concept, c'est quelque chose d'insaisissable, mais j'aime l'imaginer sous cette forme-là. C'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui m'a fait vraiment évoluer dans le sens de la guérison. Le fait de voir un joyau dont il faut prendre soin, quelque chose de riche, quelque chose d'incroyable, quelque chose de magnifique et qu'il nous faut prendre soin. Et c'est ça, finalement, la solution de nos blessures, c'est qu'un joyau, une fondation a été touchée. Alors, l'imaginer sous quelle forme, peu importe, hein, un rubis, un diamant, pour chaque blessure, cela peut être un joyau de la même couleur, cela peut être un joyau de couleur différente, de la couleur du chakra en résonance avec cette blessure. Peu importe. Pour moi, il s'agit d'une émeraude, intangible, une émeraude cosmique, qui donne un petit peu vers le jaune. En tout cas, peu importe sa forme, peu importe sa couleur, tout le travail jusqu'ici a servi à faire rebriller ce joyau, à ce qu'il retrouve sa splendeur. Nous pouvons parfaitement imaginer, si ça nous aide, que les différentes étapes jusqu'ici nous ont permis peut-être de les débarrasser de leur saleté qui les recouvrait, que ce soit de la terre ou de la poussière. Puis, une fois qu'on les a bien nettoyés, on a pu voir qu'il y avait des fêlures, des impacts, des petits manques. Du coup, nous nous employons à polir ce joyau dans un travail plus délicat maintenant, de plus en plus délicat, de plus en plus affiné, mais aussi de plus grande valeur pour éliminer, par exemple, des petites taches, des brèches, des dommages qui lui ont été causés au fur et à mesure de notre vie, parfois en profondeur. Et, comme je le disais, nous sommes responsables de ces salissures et de ces impacts. Mais on n'aurait pas pu faire autrement, nous étions des enfants. Donc il n'y a pas à culpabiliser de l'avoir, parce que c'est vrai qu'un joyau, c'est une splendeur, c'est quelque chose de sacré et qui a énormément de valeur. Mais nous n'avons pas à culpabiliser de l'avoir abîmé parce que nous étions des enfants. Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes surtout responsables de sa réparation. On pourrait imaginer, comme métaphore, voir qu'un petit enfant renverse son jus de fruits sur la table, ça arrive, c'est un accident, ce n'est pas grave. Ce qui va réellement être instructif, c'est d'apprendre à réparer, d'apprendre à nettoyer le jus pour pas avoir une table qui colle, qui attire les fourmis, qui est plein de problèmes ensuite à cause de ça. Et on va apprendre à notre enfant à réparer ses petites erreurs parce que ça va arriver 10 000 fois dans la vie de renverser son jus de fruits, de renverser quelque chose dans la cuisine quand on prépare à manger. L'important, ce n'est pas grave, mais ça va devenir grave si on ne répare pas. Et là, ça va entraîner beaucoup de conséquences qui vont peut-être nous dépasser. Et ici, personne ne va pouvoir intervenir pour réparer à notre place notre joyau. Il n'y a personne qui va venir nettoyer le jus de fruits à notre place. On est tout seul avec notre joyau, avec notre jus de fruits. Donc, on peut avoir dans notre enfance des parents qui sont venus tout de suite nous montrer, réparer, le faire à notre place. Mais maintenant, nous avons à nous reparenter et être capables d'apprendre à nous-mêmes comment nettoyer. Bien évidemment, nous ne sommes plus des enfants, nous sommes capables de prendre délicatement nos joyaux dans nos mains et de leur rendre toute leur splendeur en fait, de montrer la valeur réelle qu'ils ont. Et j'aime encore là aussi à m'imaginer que lorsque nous aurons poli tous nos joyaux, donc en tout ça fait quand même 5, plus ou moins abîmés, nous n'avons pas toutes les blessures, il y en aura qui seront beaucoup plus faciles à polir, qui demanderont beaucoup moins de travail parce qu'on en a pris un petit peu plus soin ou parce qu'on est venu dans une famille qui a évité de faire des brèches dessus. Mais en tout cas là, ces 5 joyaux qui découlent des 5 blessures, eh ben, nous pourrons alors les porter fièrement sur un bijou d'une grande beauté, que ce soit en imagination une couronne que l'on va porter sur la tête ou un Graal magnifique. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour imaginer tout cela. Les joyaux, le bijou que vous allez installer, simplement l'imaginer, leur donner un petit peu vie dans votre tête. Alors, j'espère que vous avez eu le temps un petit peu d'imaginer, sinon n'hésitez pas à y revenir un petit peu plus tard et à faire ce travail-là d'imagination. En tout cas, peu importe la couleur, peu importe la forme de ce joyau, eh bien, il a un nom. Et pour la blessure de trahison, il s'agit du mot confiance. Voilà le joyau que nous avons à polir. Dans ce cas-là, nous avons à polir notre confiance. Tout le problème, c'est qu'il nous faut le faire à la main. Il n'y a pas encore de machine qui pourrait le faire pour nous. Il suffirait de nous installer dans un lit, de nous brancher et puis pouf, voilà, le problème est résolu. Non, 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 pour le moment, ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être un jour, je ne sais pas. On va devoir le faire de façon traditionnelle, avec l'huile de coude, la sueur de notre front, tout ça. Mais en même temps, pas de façon brutale, parce que c'est quand même un joyau. Il va falloir agir dans une délicatesse extrême. C'est un travail de joaillier, un travail de précision. Pour réussir, cela nous demande du temps. Cela demande des interventions de la vie au fur et à mesure de nos progressions. La vie, on peut lui faire confiance d'ailleurs, elle agira pour nous montrer quel côté il nous faut encore polir, là où nous devons insister. Cet atelier, bien sûr, permet de faire un immense bond en avant parce qu'on va prendre conscience d'énormément de choses. Il va nous apprendre aussi, peut-être un petit peu plus, le métier de joaillier. Mais il faudra encore et toujours y travailler dans le futur pour polir de plus en plus finement, surtout s'il s'agit de notre blessure principale qui a vraiment beaucoup endommagé notre joyau. Et honnêtement, je ne sais pas si ce travail a une fin, en tout cas pour les blessures principales. Je ne sais pas si on finit un jour dans notre vie de polir notre joyau et qu'on sort dans la rue tout content en disant c'est bon, j'ai terminé. Je sais simplement pour l'avoir vécu que la vie devient beaucoup plus légère et que nous pouvons apprendre à reconnaître ces interventions de la vie justement de façon plus logique, plus détachée et ensuite d'agir plus efficacement encore. Et ce dont on peut se rendre compte aussi, c'est que plus notre joyau va être poli, plus il va briller, mais dans le sens irradié, il va rayonner, il a ce pouvoir intérieur. Ce n'est pas un joyau passif, comme on pourrait le voir dans un rubis qu'on regarderait, même si bien entendu, si vous êtes comme moi et que vous aimez travailler avec les pierres, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune pierre passive, mais a priori, on peut les voir comme ça. Là, c'est pas du tout le cas, il faut les voir comme des joyaux qui brillent. Et plus on va le polir, bah oui, plus il va être joli, mais surtout plus on va lui rendre ce rayonnement, et plus notre chakra correspondant, lui aussi, va avoir à nouveau son rayonnement. Il va briller de la couleur qu'il se doit et de la force qu'il se doit de plus en plus fort. Et ainsi, on va devenir de mieux en mieux équipé pour vivre eh bien une vie agréable, c'est-à-dire pour empêcher que les multiples douleurs que l'on va encore rencontrer sur notre chemin vont s'empêcher de devenir des souffrances. On va bien entendu expérimenter encore des colères, des émotions. C'est pas en faisant ce travail-là qu'ensuite on sera avec notre gilet pare-balles et qu'on sera totalement intouchable. En tout cas, il va y avoir encore des choses, mais tout l'intérêt, c'est d'agir et de ne plus réagir. Donc que ces émotions-là soient exprimées, qu'elles passent de plus en plus vite et de retrouver notre équilibre de plus en plus rapidement, de revenir à nous, de revenir à notre centre, à notre cœur, à ce que l'on est, de revenir à notre joyau le plus en plus vite. Oui, donc nous allons encore faire tomber notre Graal ou notre couronne. Ça va arriver. Mais tout l'intérêt va être de savoir le ou la ramasser et le ou la remettre, par exemple, si c'est une couronne, sur notre tête, de plus en plus vite, immédiatement, de retrouver notre centre, de retrouver notre alignement, d'être et de ne plus être dans l'ego. Comme je vous le disais, l'ego, c'est indispensable, c'est fait ce qui nous permet de nous identifier parmi cette pluralité d'être tel que l'on est, de vouloir justement s'aligner et d'être dans notre vérité. Ça, c'est l'ego positif. Et l'ego négatif, c'est celui qui nous fait réagir, qui dépasse un petit peu tout. Donc, bien entendu qu'on va fluctuer et qu'on va des fois se retrouver dans notre ego, mais de plus en plus vite, on va se remettre dans l'alignement de ce que l'on est véritablement. Et c'est tout l'intérêt de polir notre joyau. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis à très vite pour la suite. Nous allons passer à des questions pour comprendre davantage ce que représente le concept de confiance pour vous, comment il est intervenu dans votre vie jusque-là. Donc, à très vite pour la suite.